On va donc redémarrer. Je me permets, donc on va avoir cette. On vient de finir sur la question, donc informer, repérer, pour vous situer un petit peu dans notre programme. Et donc, cette deuxième partie d'après-midi, on va être sur protéger, accompagner. Et donc, pour protéger, on a une table ronde donc avec Madame Vip et Monsieur Fauquet qu'on vous présentera. Et pour l'initier, on va vous remontrer donc une nouvelle vidéo du kit de sensibilisation, justement de pouvoir, enfin, dans la suite chronologique, que faire face à une situation de prostitution de mineurs, une fois qu'on a repéré les signaux d'alerte, une fois qu'on a pu peut-être aborder la situation et au mieux de la fin des situations, comment qu'on a, vous avez eu une révélation, donc de pouvoir effectivement savoir quoi faire face à ça. Et je vous la mets tout de suite.
Que faire face à une situation de prostitution de mineurs ? Parents, professionnels, vous pouvez être confrontés à une situation de prostitution de mineurs. Soit parce que vous avez repéré des signes, soit parce que le jeune vous a fait des révélations. Voici quelques conseils pour faire face à ces situations particulièrement difficiles. En parler. N'hésitez pas à en parler au jeune et lui faire part de vos inquiétudes. Il peut se confier à vous. Il peut aussi refuser votre aide. Ne pas rester seul. Si le jeune vous fait des révélations ou si vos doutes persistent, l'important est de pouvoir en parler à d'autres personnes tout en respectant la vie privée du mineur. Parents, proches, vous pouvez en parler à un ami, à une personne en qui vous avez confiance. Professionnels, vous pouvez en parler à un collègue, à votre équipe. Vous pouvez aussi contacter le 119, l'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger ou l'unité médico-judiciaire de votre département, les urgences pédiatriques, les services de soins pour adolescents, la cellule de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes de votre département, des associations spécialisées. Signalez la situation. Tout mineur en situation de prostitution, même occasionnellement, est en danger. Le procureur de la République doit être informé de sa situation pour le protéger. Vous devez prévenir le procureur en lui envoyant un écrit précisant vos inquiétudes. Une copie de cet écrit est à envoyer à la cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes de votre département. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez appeler l'équipe du 119. Elle vous guidera. Les parents du mineur doivent être informés de la situation de leur enfant par les autorités compétentes. Orienter. En plus du signalement, il peut être nécessaire d'orienter le mineur vers des structures de soins. Urgence, urgence pédiatrique, unité d'accueil pédiatrique enfance en danger de votre département, consultation de pédopsychiatrie, centre médico-psycho-pédagogique ou encore une maison des adolescents selon les ressources de votre ville. N'hésitez pas à demander de l'aide à ces services. Les professionnels sont là pour vous accompagner et protéger le mineur. D'autres outils et vidéos sont aussi à votre disposition. N'hésitez pas à les consulter. Merci et à bientôt.
Donc voilà la troisième vidéo, donc qui alors toujours pareil, hein, enfin c'est des choses assez claires pour nous certainement, mais qui méritent d'être éclaircies peut-être pour d'autres. On a une quatrième vidéo dans ce kit-là qui justement explique bien la différence entre la CRIP et le parquet, puisqu'on se rend compte que des fois il y a des confusions. Donc l'objectif, c'était de pouvoir d'expliciter en quoi à la fois ils sont différents, mais aussi surtout complémentaires. Donc on vous la mettra bien évidemment sur le site internet du CVM. Et donc je vais laisser la parole. Alors je suis désolée, je passe vite parce qu'on change l'ordre. Hop, comme ça. Je laisse un suspense incroyable. Et voilà. Donc on va arriver, donc je vais laisser la parole à Monsieur Fauquet qui est responsable de la CRIP, donc de la cellule de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes du Val d'Oise.
Bonjour à tous et à toutes et puis merci de m'inviter. Voilà le thème de la prostitution des mineurs, on se l'est pris en pleine face il y a quelques années déjà, donc je pense que comme tous les départements, on est très sensibilisés sur cette question, notamment les lieux qui accueillent en urgence les jeunes. Parce que souvent, la porte d'entrée de ces situations, c'est l'urgence. Voilà, donc je vais rappeler, en brossé dans les grandes lignes, le rôle de la CRIP en donnant des repères juridiques, et puis me recentrer dans un deuxième temps sur vraiment nos actions sur cette question-là. Donc je rappelle, mais certainement que vous connaissez, les CRIP ont été créés par la réforme de 2007 qui désigne le président du Conseil général comme maintenant départemental, comme chef de file en matière de protection de l'enfance et qui le charge de recueillir les informations préoccupantes. Donc à ce titre, tous les départements ont créé des cellules de recueil des informations préoccupantes dont l'objectif, je le rappelle, est de centraliser ces informations pour éviter leur dispersion. Il y a quelques affaires, comme l'affaire Marina, qui a montré que c'est très difficile, très facile finalement d'échapper au système. Donc les CRIP, c'est un dispositif qui est centralisé sur les départements, mais je précise aussi que toutes les CRIP de France sont en lien entre elles, voilà, et notamment en Île-de-France où on se connaît très bien. Aujourd'hui, on utilise le terme d'information préoccupante. Dans le Val-d'Oise, c'est toute information qui arrive à la CRIP. On ne va pas faire la distinction entre information qualifiée, information entrante. Toute information est une information préoccupante. Et on l'enregistre comme telle dans notre logiciel. Donc, je reviendrai sur l'enregistrement des IP. Donc, une IP, simplement, c'est une information. Alors là, je vais lire en fait la définition du danger tel qu'il est défini par la loi. Donc, une IP est une information qui concerne un mineur, qui laisse craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être, ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. Donc, je précise que cette définition de l'IP qui désigne un danger, ce danger est lui-même défini par la loi, c'est l'article 375 du Code civil. Voilà, la finalité de l'IP, c'est avant tout d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier. Donc on est à la fois sur évaluer la notion de danger et surtout, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui va déterminer les actions suivantes, la capacité des parents à reconnaître l'existence d'un danger et à se saisir des propositions d'aide. L'article 371.1 du Code civil qui définit l'autorité parentale comme l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, on l'a en tête, même si au quotidien on ne l'utilise pas, mais voilà, c'est ces deux articles qui nous permettent qui légitiment notre action. Donc, quand on reçoit une information dite préoccupante, on regarde plusieurs choses, notamment l'existence d'un danger, d'une information qui laisse penser qu'il y a un danger, mais également l'existence d'informations qui laissent penser qu'un crime ou un délit a été commis ou pourrait être commis. Donc, on a cette obligation au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale de signaler toutes ces informations à l'autorité judiciaire, donc au parquet des mineurs pour ce qui nous concerne. Alors c'est un signalement qui ne répond pas aux mêmes règles que la transmission d'informations préoccupantes, puisqu'on n'a pas l'obligation de prévenir les parents quand on fait ce signalement. En revanche, quand n'importe qui, les professionnels en l'occurrence, puisque nous on a affaire à 95% des professionnels, donc lorsque des professionnels signalent une situation, mais au titre de la protection de l'enfance, donc le terme signalé il est impropre aujourd'hui, mais transmet une information professionnelle, il a l'obligation d'informer les parents, sauf s'il estime que cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. Alors notamment quand il y a une dénonciation de crime ou délit, surtout quand ces délits ou crimes ont été commis à l'intérieur, au sein de la famille, cette obligation, elle saute, parce que évidemment dans ces situations-là, l'essentiel c'est quand même de préserver l'enquête pénale et de préserver les preuves et d'éviter les pressions sur les enfants. Donc l'essentiel de notre travail, c'est d'évaluer l'existence d'un danger. Alors, si nécessaire, on va demander une évaluation complémentaire auprès des services sociaux. Donc, cette information complémentaire qu'on appelle évaluation. Aujourd'hui, les modalités sont définies par un décret qu'on a constamment en tête. C'est le décret du 28-10-2016, donc qui fait suite à la loi du 7 mars 2016, je crois, et qui fixe les modalités d'évaluation en protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, quand on a une information préoccupante, mais qu'on n'a pas les éléments nécessaires qui nous permettent de prendre une décision, notamment le positionnement parental et tout ça, on va demander une évaluation complémentaire. Donc cette évaluation, elle répond à certains critères. Donc elle doit être réalisée en 3 mois. Donc, je préfère dire tout de suite qu'on n'y est pas. L'essentiel des départements n'y sont pas, mais voilà, on a une obligation de réaliser les évaluations en 3 mois. On a également l'obligation d'évaluer la situation de tous les mineurs présents au domicile. Même si une information préoccupante concerne un seul mineur, on va avoir l'obligation d'évaluer toutes les situations des mineurs présents au domicile. Donc, dans les situations, par exemple, de jeunes filles en fût qui se prostitueraient, c'est toujours intéressant de comprendre comment la petite sœur vit cette situation, la grande sœur qui a disparu ou le petit frère, voilà. L'évaluation, elle est conduite, je vais dire normalement, parce que on se heurte toujours à un problème de moyens, même par une équipe pluriprofessionnelle. Donc, les conclusions, ce qu'on recherche à travers cette évaluation, c'est vraiment de vérifier l'existence d'un danger et surtout d'évaluer la capacité des parents à pouvoir se saisir de ce qui va leur être envoyé, des aides qui vont leur être proposées. Et c'est à ce moment-là où nous, on intervient en fait en fin d'évaluation, c'est là où on prend la décision, le cas échéant, de saisir l'autorité judiciaire, mais là, pour le coup, en assistance éducative, en vue d'une saisine du JE. Alors, je rappelle que pour saisir... nous, on ne saisit pas le JE, on saisit le parquet qui saisit le JE. Pour saisir le parquet, donc le parquet des mineurs, on doit démontrer à la fois l'existence d'un danger au titre de l'article 375, mais également l'impossibilité pour l'équipe pluriprofessionnelle d'évaluer ou le refus des parents d'accepter l'aide. Donc on doit effectivement donc évaluer ce danger et la capacité des parents à y répondre, et sauf dans les cas de maltraitance, où là on a l'obligation de signalement à l'autorité judiciaire sans passer par toute cette procédure. Donc de plus en plus, dans les situations, on doit articuler enquête de police, parce que très, très, très fréquemment, on signale des faits au titre de l'article 40, mais en même temps, on a des éléments qui laissent penser qu'on peut aussi travailler le côté assistance éducative. Donc on demande à la fois une enquête de police et une évaluation. Donc on cherche à articuler ces deux procédures, et là, c'est assez compliqué, parce que on agit en faveur des enfants à rechercher de l'aide avec comme éventuel objectif mettre en place des mesures. Les forces de police, eux, vont être à la recherche de preuves pour aller poursuivre des personnes qui auraient commis des délits et des crimes. Donc on arrive dans les situations les plus graves, voyez, où on a vraiment besoin de vérifier un certain nombre de choses, à articuler dès le départ enquête de police et... évaluation, parce que parfois on a besoin de savoir tout de suite si on est sur une OPP ou si on est sur une évaluation. Alors, de plus en plus, on arrive à articuler, mais ça reste quand même une gageure de quand on se lance dans une évaluation au long cours, là, d'articuler enquête de police. Là, c'est très compliqué. Donc, je rappelle aussi, je reprécise que, effectivement, aujourd'hui, là, on a l'obligation, mais on s'était déjà saisi de cette problématique, hein, d'apporter une aide matérielle, psychologique, sociale à tout mineur qui se livre à la prostitution de façon régulière ou occasionnelle. C'est la réforme du 7 février 2022 qui confie cette nouvelle mission à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, là je voulais brosser un peu le contexte général de notre intervention. J'essaie de me recentrer. Alors, la difficulté effectivement qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'indicateur qui permet de mesurer effectivement le phénomène. On a eu un diagnostic qui a été réalisé par l'Amicale du Nid sur 2-3 ans, qui a permis de recenser auprès des professionnels à peu près 140 situations. Mais c'est un recensement auprès de professionnels, voilà, uniquement du secteur médico-social. Donc, en plus, c'est un recensement qui incluait les mineurs non accompagnés, à une époque où on a dû aussi répondre à une grosse vague de mineurs non accompagnés. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée, 100, 140, voilà, c'est sur une période de 3 ans recensé. Aujourd'hui nous, on n'a pas le chiffre. Tout ce que j'ai comme indicateur, moi, c'est, je reviendrai, mais voilà, on a un logiciel métier qui s'appelle Soli, sur lequel on doit coter, en fait, le danger. Et voilà, les dangers, c'est, la maltraitance, c'est violence sexuelle, violence physique. Et c'est surtout mise en danger du mineur par lui-même. Voilà, dans cette catégorie, on va mettre les jeunes filles en général, hein, qui se livrent à la prostitution. Mais on va aussi mettre les jeunes filles qui fuguent. Bon, voilà, c'est quand même des indicateurs qui vont un peu dans le même sens. Les jeunes filles qui vont s'exposer sur les réseaux sociaux, les jeunes filles qui vont se scarifier, l'absentéisme scolaire. Et tout ça, on sait bien que c'est des indicateurs aussi qui laissent penser que peut-être il y a de la prostitution derrière, même si on n'a pas vraiment l'indicateur qui nous dit, voilà, cette jeune fille, elle se prostitue. Mais voilà, on a quand même accès à des informations qui laissent penser que... Et pour autant, ça recouvre quand même un certain nombre de situations qui nous empêchent de vraiment mesurer précisément le phénomène. Donc voilà d'autres chiffres qui permettent, mais là encore ce sont des indicateurs indirects, hein, d'autres chiffres qui permettent donc d'approcher, on va dire, d'essayer de circonscrire le phénomène. Donc en 2021, on est sur 5300 informations préoccupantes concernant le Val d'Oise. Ça représente 5000 mineurs, puisqu'un mineur peut faire l'objet de 1, 2, 3 informations préoccupantes dans l'année. On est sur à peu près 5% de croissance tous les ans. On a pris 30% d'augmentation d'IP en 5 ans, alors que la croissance de la population, elle est de 1%. Bon. Qu'est-ce qui explique? Je pense que c'est parce que voilà, on fait en sorte d'être connu, d'être repéré. On ne peut absolument pas en déduire que les enfants sont plus en danger aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Hein. C'est juste que je pense que les professionnels travaillent de plus en plus ensemble et se connaissent. Juste pour avoir un ordre d'idée, 5000 mineurs, c'est autour de 1,5% des mineurs présents sur une année. Hein, je veux dire. Donc la minorité, ça dure 18 ans. Alors de là, multiplié par 18, j'en suis pas là. Mais bon, voilà, ça donne un ordre d'idée. C'est, on va dire, un enfant, deux enfants pour trois classes, à peu près. On travaille essentiellement avec des acteurs institutionnels à 95%. L'éducation nationale de plus en plus. La santé, donc les hôpitaux. Alors les hôpitaux, c'est les services d'urgence, la pédiatrie et énormément la pédopsychiatrie. Le parquet, 14%, c'est un chiffre qui augmente. En fait, ce sont surtout des, par exemple, typiquement un retour de fugue déclaré par les parents, des parents qui font part de leurs difficultés auprès du commissariat. Donc sur un plan pénal, il ne se passe rien, dans la plupart des cas, mais l'information elle est quand même remontée au parquet qui nous la redescend pour évaluation, pour compétence. Donc le parquet, c'est un chiffre qui, il y a 3-4 ans, il était à 10%, aujourd'hui il est à 14%. Voilà, on est aussi, alors c'est un autre sujet, on a beaucoup de sollicitations du parquet sur des questions de violence conjugale également, de plus en plus. Les services sociaux, nos propres services sociaux, c'est 15%. Le 119, c'est 11 à 12%, donc il y a eu un bond du 119 en 2020, parce qu'ils ont pris le relais de nombreux services qui étaient fermés. Et ils ont gardé, j'ai l'impression, quand même, cette dynamique, notamment aussi grâce à la mise en œuvre du chat, là. Voilà. Alors le chat, nous on est un peu réservé parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est souvent les gens qui n'arrivent pas à avoir quelqu'un au téléphone qui écrivent sur le chat. Mais par ailleurs, on sait bien que les mineurs, quand un mineur téléphone, il est prioritaire sur les adultes. Hein. Donc lui, un mineur qui téléphone, il a quasiment la certitude d'avoir quelqu'un au bout du fil, ce qui n'est pas le cas des adultes. Sur les associations, c'est 7,5%. Voilà. Sur les indicateurs de danger, de risque, de maltraitance, dans 25% des IP, on a une évocation de violence physique. Alors, il y a une partie qui donne lieu à un signalement à l'autorité judiciaire, mais pas tout le temps. En général, de plus en plus, hein, ça a été le cas un peu avant, il y avait, je trouve, beaucoup trop d'autocensure. beaucoup trop de services sociaux, d'écoles qui pensaient pouvoir régler ces histoires de violence physique entre eux, là, en faisant le point avec les parents régulièrement, et on se rendait compte que c'était pas la bonne solution. Donc nous, on a fait le choix il y a quelques années de bah, de pas censurer, de signaler tout ce qui est violence physique, puisque voilà, c'est bah, ça relève d'une enquête pénale, et nous, on n'a pas les moyens de l'enquête pénale, donc chacun son travail. Donc, mise en danger du mineur par lui-même, c'est 10%. Voilà. C'est 10% des mineurs qui nous sont signalés le sont pour parce qu'ils se mettent en danger. Et les violences sexuelles, c'est 7%. Donc, tout ça, ça peut se cumuler hein, sur une même situation. Donc, au niveau des âges, on a quand même vu un phénomène arriver, là, ce que j'appellerais une féminisation des IP. En 2019, on était sur 48% de filles, 52% de garçons au niveau des IP. Et en 2020, on a basculé à 52% de filles, 48% de garçons. Et on se rend compte que bon, les garçons sont plus nombreux que les filles sur la tranche d'âge primaire. Et arrivé au collège, ben les filles se rattrapent très rapidement et de plus en plus. En 2019, donc les garçons étaient quand même toujours plus nombreux, sauf à partir de la tranche d'âge 14 ans, où les filles dépassent les garçons en 2019 à partir de la tranche d'âge 14 ans. Et en 2020, c'est à partir de l'âge de 12 ans. On a vraiment vu, voilà, comme ça, un phénomène qui se... Alors, je me suis arrêté à 2020, parce que j'ai fait des statistiques un peu plus précises sur cette période-là. Mais c'est un phénomène qui se poursuit sur 2021. Même constat sur les enquêtes pénales. Donc, on a signalé pour enquête pénale 721 mineurs en 2021 pour le coup. 234 pour violences sexuelles sur ces 721. Et sur ces 234, ça concerne 86%, ce sont des filles. Même constat sur les OPP en 2020. J'ai recensé 226 OPP en 2020. 137 filles, c'est 60%. De l'ensemble des OPP qui sont ordonnés sur 2020. Et si on regarde la tranche 12-17 ans, c'est 70% de filles. Voilà, donc 25% c'est mise en danger du mineur par lui-même, 60% la violence physique est présente et 20% violence sexuelle. Donc voilà, c'est important de... Alors je sais pas si dans les autres tripes ils ont constaté ça, j'ai pas pu comparer mes chiffres, mais voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une nette féminisation avec un rajeunissement de l'âge moyen des filles qui se mettent en danger. Alors j'ai des filles parce que les chiffres sont assez parlants, c'est 80-90% sur tout ce qui est violence sexuelle, prostitution, ce sont des filles. Voilà, donc à partir du diagnostic qui a été réalisé par l'Amicale du Nid, hein, donc... qui a abouti à un certain nombre de préconisations. Donc, première préconisation, effectivement, c'est ce que j'ai entendu, c'est de former tous les professionnels. Donc, il y a eu un colloque il y a 3 ans sur cette question-là. Donc, voilà, il y a un programme de formation, action auprès des professionnels à partir des situations qui sont connues, suivies. On s'était posé comme principe un impératif de signalement ou à minima d'une information préoccupante pour tout ce qui relève de la prostitution des mineurs. On a constitué un groupe de travail interprofessionnel. Donc voilà, il y a eu 2-3 séances. Alors l'intérêt de ce groupe, et j'ai envie de dire c'est inédit dans ma carrière, c'est de rassembler autour d'une table le parquet, l'hôpital, l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, nous, quelques établissements, voilà. Donc là, on a abouti dans un premier temps déjà à s'échanger banalement nos organigrammes, nos numéros de téléphone, à vraiment préciser ce que chacun fait, les limites de chacun. Et on a abouti hier à une fiche de signalement. En fait, voilà. Parce que ce que nous a renvoyé la police, c'est que voilà, les signalements qu'on envoyait, ben, étaient riches en éléments éducatifs, tout ça. Sauf que parfois, concrètement, ben, c'est pas aidant, voilà, pour leur enquête. Hein. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont besoin de numéro d'immatriculation, de numéro de téléphone, de modèle de portable, même le numéro de carte Navigo permet de suivre. Voilà des éléments qui permettent vraiment de localiser, de suivre. Voilà. Donc c'est une fiche qu'on va mettre en place, qui n'est pas encore complètement validée, mais qui répond à ce besoin vraiment d'être sélectif sur l'information pour la rendre plus efficace. Voilà, donc en novembre cette année, l'ODPE portera sur ce thème des mineurs isolés. Pour l'instant, on n'a pas de place fléchée sur ce public. Le placement pour ce public, voilà, on sait que c'est pas forcément la bonne réponse, puisque voilà, c'est des jeunes qui se saisissent pas, qui peuvent s'en saisir, mais pour des choses qui nous intéressent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils vont se reposer, ils vont éventuellement recruter d'autres jeunes, donc là, il y a une vigilance maximum à avoir. Donc, il peut y avoir des placements. Il y a des jeunes filles qui sont placées, hein, qui se livrent à la prostitution, mais c'est compliqué. Mais alors, l'idée, c'est des projets. Hein, il n'y a rien de concret. C'est de spécialiser des AEMO éventuellement. C'est quand même de créer des lieux d'accueil dédiés qui offrent un accueil inconditionnel. Je pense que ce caractère inconditionnel, il est essentiel, parce que si on leur demande trop, effectivement, on risque de les perdre. Voilà, moi je pense qu'il faut, dans ces situations, rester très humble, garder le contact, attendre qu'éventuellement il y a une demande d'aide qui émerge, et à ce moment-là il faut être très réactif, je veux dire, notamment pour les sortir. Voilà, s'il y a une volonté de sortir de ce milieu, là il faut être très très réactif à ce moment-là. Donc c'est autour de cette problématisation qu'on réfléchit à l'élaboration de dispositifs. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci beaucoup. Et alors, on va tout de suite revenir un petit peu avant. Voilà. Donc, Madame Vip, je vous laisse la parole, donc vice-procureure, chef du parquet des mineurs de Paris.
Merci beaucoup. Merci Mélanie Dupont. Merci. Merci Hélène Pohu et merci à Charlotte Gorgière de m'avoir invitée. Donc, je dirige en effet le parquet des mineurs de Paris, qui est composé de 12 magistrats. Nous avons évidemment une organisation qui est basée sur l'urgence, mais nous avons également une vocation à traiter de manière approfondie les dossiers les plus complexes. Donc, sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la prostitution des mineurs, je ne vais pas venir sur les éléments chiffrés qui ont déjà été abordés, avec notamment en caractéristique également un rajeunissement des mineurs victimes de prostitution que nous constatons au quotidien dans nos dossiers, tant en ce qui concerne donc les mineurs victimes, mais comme on a pu l'indiquer, les mineurs peuvent également eux-mêmes être proxénètes en étant eux-mêmes très jeunes, certains âgés de 13 ou 14 ans. Nous avons un dossier à l'instruction où des mineurs de moins de 16 ans sont écroués car ils se sont livrés à l'activité de proxénétisme sur mineurs qui d'ailleurs peuvent être plus âgés qu'eux. Voilà, donc c'est une caractéristique assez récente. Donc, en dehors de l'augmentation chiffrée du phénomène, on a, à mon sens, un rajeunissement à la fois des victimes et des auteurs qui inquiète fortement l'ensemble des professionnels. On en a parlé aussi s'agissant de l'origine sociale qui peut être très variée, avec néanmoins une caractéristique souvent commune, soit des carences, soit des véritables violences qui ont été subies, soit dans un cadre intrafamilial, soit en raison des carences dans le milieu familial, à un placement institutionnel intervenu très tôt, et des violences qui peuvent avoir été commises de manière sexuelle ou physique ou psychologique au sein de l'institution dans laquelle ces mineurs étaient confiés, et qui va induire tout un comportement pour l'avenir, puisque qui sera caractérisé par le manque de confiance en l'adulte. Puisque dès le départ, l'enfant a évolué dans un milieu où il a constaté que l'adulte n'était pas protecteur, eh bien, lorsqu'il est amené et confronté à l'autorité, eh bien, il ne parvient pas, en tout cas pas tout de suite, à se considérer comme victime et donc à nous aider pour nos enquêtes, puisque au départ, dans ces dossiers-là, nous avons besoin de la parole de la victime pour nous aider à construire les dossiers. Ça a été dit également très largement, mais je pense que c'est important de le rappeler, même quand nous avons des adolescents bien construits, eh bien, là aussi, on a une telle banalisation du phénomène que, eh bien, il est difficile, en tout cas au départ, de créer un lien de confiance, on en a beaucoup parlé aussi, ce qui permettra ensuite eh bien, de constituer des bases solides pour construire notre enquête. On parle, quand on parle de protection des mineurs victimes de prostitution, ça implique nécessairement de poursuivre les auteurs de proxénétisme sur mineurs. On évoquait tout à l'heure la question des clients. Évidemment, le recours à la prostitution et bien évidemment le recours à la prostitution de mineurs est une infraction pénale. Pour autant, eh bien, quand bien même ce sont des clients, ils sont très souvent extrêmement prudents. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, nous sommes en difficulté dans nos dossiers pour les identifier. Évidemment que nous avons identifié justement cette marge de progression, hein, à savoir que s'attaquer aux clients des réseaux de prostitution, c'est évidemment un élément particulièrement indispensable et nécessaire pour tarir le phénomène à la source. Néanmoins, quand bien même on en serait conscient, en pratique, dans nos dossiers, il est bien souvent compliqué de remonter. On a donc des clients qui utilisent des lignes téléphoniques dédiées, des numéros de téléphone qui changent toutes les semaines, et donc une difficulté pour les enquêteurs et nous de pouvoir remonter jusqu'à ces clients. Au parquet de Paris, nous sommes 128 magistrats, au parquet des mineurs, 12 magistrats, et donc nous avons une organisation qui est structurée pour traiter les dossiers de proxénétisme en fonction de leur ampleur. À Paris, nous avons une compétence y compris internationale, interrégionale, et donc en fonction de l'ampleur du réseau de proxénétisme, eh bien, cela déterminera la section du parquet de Paris compétente pour diriger l'enquête pénale en lien avec, en principe, un service de police, puisque nous travaillons essentiellement au parquet de Paris avec les services de police, en lien avec le service de police adapté donc à l'ampleur du réseau des banquiers. Donc nous, en ce qui concerne le parquet des mineurs, nous traitons les réseaux, petits réseaux de structuration moyenne, on va dire, qui impliquent donc des proxénètes recourant et donc recrutant des prostituées mineures. Un procureur de la République, on a évoqué tout à l'heure, hein, la différence entre les différents acteurs, les différents auteurs de la protection de l'enfance. Un parquet mineur, il a une spécificité et une compétence supplémentaire par rapport à un procureur classique. Un procureur classique, on va dire, qui représente l'intérêt général et qui conduit en lien avec, donc, à Paris essentiellement les services de police, mais les services d'enquête d'une manière générale, il dirige des enquêtes pénales dans l'objectif d'identifier et donc d'incarcérer, lorsque les faits sont graves, en tout cas de réprimer et de poursuivre les auteurs d'infractions pénales. Donc infraction pénale suppose au départ une victime. Nous, au parquet des mineurs, nous avons bien évidemment cette casquette générale puisque nous poursuivons et réprimons toutes les infractions pénales dont sont victimes les mineurs, d'une manière générale, mais nous avons également une autre compétence qui est celle de la protection de l'enfance. Et comme cela a pu vous être indiqué par M. Fauquet, nous travaillons au quotidien avec la CRIP et toutes les autorités signalantes pour détecter les mineurs en danger, évaluer, puisque maintenant l'autorité judiciaire a une compétence subsidiaire en matière de protection de l'enfance, c'est-à-dire que le juge des enfants ne sera saisi que par nos soins, nous procure la République, que dans les situations les plus graves et que lorsque tout l'accompagnement qui aura pu être mis en place par le conseil départemental aura soit montré ses limites, soit se sera heurté à un refus des parents de mettre en place l'accompagnement éducatif proposé. Donc c'est la raison pour laquelle, en matière de proxénétisme de mineurs, nous avons besoin de nos deux casquettes, puisque un mineur qui est victime de prostitution, c'est à la fois un mineur en danger, d'une part, qu'il va falloir donc protéger, et c'est également un mineur d'infraction pénale qu'il va falloir donc accompagner tout au long de la procédure. Vous avez sûrement parlé de l'impact de la crise sanitaire sur le phénomène de la prostitution de mineurs. Il est indéniable que non seulement il a contribué à augmenter le nombre de victimes, mais également à modifier les formes de prostitution. Et donc aussi, qui dit augmentation, qui dit modification, dit également banalisation du phénomène de la prostitution des mineurs. Mon propos aura essentiellement pour objectif, puisque le temps de parole est limité, de me focaliser sur les mineurs français, les mineurs françaises victimes de prostitution. Nous ne sommes donc plus sur un... Pour les mineurs, ça n'a quasiment jamais existé, hein, la prostitution de rue. Nous sommes donc sur de la prostitution, mais plus tellement dans des hôtels, puisqu'au moins nous avions la vigilance des hôteliers pour, comme seuil ou critère d'alerte. Nous sommes essentiellement maintenant sur du proxénétisme dans des appartements, et dans des appartements qui sont loués, hein, notamment via Airbnb. Notre autre, donc, c'est du proxénétisme qui est caché et qui est donc dissimulé et plus difficile à détecter. Nous avons également un autre phénomène, mais qui est le même sur tout le territoire. On a parlé tout à l'heure de coordination des acteurs en interinstitutionnel. Nous avons aussi une difficulté liée à un territoire qui est très mouvant, c'est-à-dire que tant les auteurs de proxénétisme que les mineurs qui se prostituent, eh bien, sont très mobiles sur l'ensemble de la région Île-de-France, voire les régions limitrophes à l'Île-de-France, donc, ce qui étant relativement le phénomène. Donc nous avons des dossiers où les policiers doivent se déployer dans 3, 4, 5, 6 départements de manière simultanée pour donc aller interpeller des auteurs qui sont donc disséminés sur, ça peut être quasiment un quart du territoire français. Donc évidemment, c'est des enquêtes au long cours qui nécessitent une préparation et un investissement des enquêteurs particulièrement importants. Comment une enquête pénale peut-elle débuter ? Eh bien, grâce aux signalements qui peuvent nous être adressés. On en a parlé. Côté CRIP, évidemment, il n'y a aucune difficulté. Les informations sont transmises de manière très fluide et très transparente. Nous pouvons encore gagner en efficacité, comme cela a été indiqué par Monsieur Fauquet, sur la présentation du signalement, le circuit. L'estampillage signalement prostitution de mineurs. Nous avons à Paris, au parquet des mineurs, 3 référents proxénétisme. Il est nécessaire qu'ils soient informés de l'ensemble des signalements. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, nous sommes destinataires par jour, uniquement en ce qui concerne donc soit les mineurs parisiens, soit les mineurs hospitalisés à Paris, entre 10 et 20 signalements par jour. Et je ne parle pas des mineurs non accompagnés, ça peut être les mêmes volumes, voire des volumes qui sont doubles. Donc nécessairement, sur ces volumes-là, il est important d'avoir une visibilité et une traçabilité de ces signalements, raison pour laquelle nous travaillons en lien avec la CRIP de Paris pour encore améliorer ce processus de d'estampillage signalement prostitution. Le point faible que nous identifions à ce stade, c'est l'éducation nationale. On a parlé de formation des professionnels, donc en effet, côté travailleurs sociaux, éducateurs, PJJ, ASE, il n'y a aucune difficulté, tout est en cours d'acquisition. Je pense qu'on est Vraiment, on a fait énormément de progrès ces dernières années. En revanche, côté éducation nationale, malgré leur volonté très nette de vouloir s'attaquer à la problématique, on a encore des difficultés à recevoir des informations, soit en temps utile, soit tout court. Donc il y a la problématique des établissements publics avec lesquels il y a un discours institutionnel qui est très ouvert, donc la marge de progression, je ne suis pas inquiète, elle va se concrétiser dans les mois à venir. Il y a la problématique des établissements privés qui, elle, sera plus difficile à aborder, mais c'est également une thématique à laquelle nous nous sommes attelés. Alors, je reviendrai pas sur les signaux faibles de la prostitution, de la bascule. Voilà, tout cela, vous le connaissez très bien. Bon, ça a déjà été dit. Voilà, donc si on se focalise plus particulièrement sur l'enquête, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc on a un processus très rodé au parquet des mineurs. On a parlé tout à l'heure d'audition ou de trame type de signalement. On a une audition type de signalement qu'on est capable de transmettre à l'intégralité des services de police, puisque nous devons distinguer entre les situations où il y a une suspicion de prostitution de mineurs et les situations où il y a une prostitution de mineurs avérée. Donc, puisque nous avons des services spécialisés, l'objectif est de cibler les situations dont nous allons les saisir pour qu'ils puissent se concentrer sur les faits les plus graves et les dossiers les plus complexes. Donc, très concrètement, les commissariats parisiens, il y en a 16, vont être saisis du travail de dégrossir la situation, d'affiner les choses, donc souvent ce sont les premiers intervenants, et nous allons saisir la brigade de protection des mineurs pour les dossiers donc de proxénétisme établis, donc lorsqu'on est sur en général on essaye d'être sur plusieurs auteurs pour véritablement cibler les dossiers les plus intéressants. Alors, à noter, parmi les améliorations notables en termes de coordination des acteurs, l'engagement de la direction régionale de la police judiciaire qui, au mois de septembre 2021, a créé un groupe d'enquête spécifique dédié à la lutte contre le proxénétisme de mineurs et qui fournit un travail de grande qualité et qui aboutit donc dans des temps réduits à donc monter des dossiers qui sont véritablement très bien construits, ce qui fait que, comme j'ai pu l'indiquer, malgré parfois le très jeune âge des auteurs, nous aboutissons à des incarcérations de mineurs qui, devant le juge des libertés et de la détention, alors que c'est leur premier contact avec la justice, vont dire à l'âge de 14 ans qu'ils n'avaient absolument pas conscience d'être l'auteur d'une infraction pénale, alors même qu'il séquestre une jeune fille depuis plusieurs jours, que tout un système logistique est nécessaire sur la nourriture, les produits stupéfiants, parfois les préservatifs, etc. Donc on constate que malgré une organisation qui peut-être est improvisée, on a parlé de soirées, en effet, on reçoit régulièrement des alertes en nous disant il est prévu une soirée dans un appartement, dans tel arrondissement. Nous soupçonnons que ce soit l'occasion pour plusieurs mineurs de se prostituer. Qui est auteur, qui est victime? Voilà, c'est tout l'enjeu de nos dossiers. Sur les processus d'accompagnement et l'interaction qu'on doit nécessairement améliorer. On a parlé de primo-accueil, puisque souvent les faits sont dénoncés dans le contexte d'une fugue. Et c'est vrai qu'à Paris, ça a été dit, et c'est la même chose pour la plupart des départements, nous sommes en mal pour proposer un lieu d'accueil qui soit adapté à ces jeunes filles, souvent en errance. Donc ça, c'est une piste de travail sur laquelle nous travaillons. Faut-il prévoir uniquement, moi j'aimerais bien qu'on développe les deux, à la fois un accueil inconditionnel, Et ensuite, un lieu de vie plus construit, avec, puisque dans ces cas-là, on est plutôt sur des jeunes filles de 16-17 ans, avec un lieu de vie qui soit plus construit sur l'apprentissage de l'autonomie, et puis évidemment, en parallèle, la construction de la rupture avec le phénomène de prostitution. Faut-il, dans le cadre du suivi par le juge des enfants, créer des mesures spécifiques d'AEMO, d'AEMO renforcée ? C'est aussi une question à laquelle réfléchit l'aide sociale à l'enfance. En tout état de cause, il est certain qu'il faut créer des pôles au sein des différents services de professionnels plus spécialement aguerris sur l'accompagnement et la prise en charge des mineurs prostitués. Nous essayons donc à Paris de coordonner ces différents travaux et moyens dans le milieu, au sein du milieu associatif. Ville de Paris, très investie. De même, ça a été dit tout à l'heure, la préfecture de police et la préfecture de région. Donc, il y a des groupes de travail. Il y a un GLTD qui a été lancé à la fin de l'année 2021 par la nouvelle procureure de la République. On a à la fois élargi territoire parisien au plan géographique, mais également donc on l'a élargi à la lutte contre la prostitution des mineurs, puisque auparavant c'était un phénomène qui n'était envisagé que sous l'angle des majeurs. Évidemment, sont associés, on l'a dit, tous les partenaires associatifs, mais l'objectif là encore est de cibler, de mieux articuler. Qui fait quoi ? On sait très bien que pour les mineurs qui sont suivis par l'ASE, il y a tout un processus qui est prévu. Mais que fait-on pour les mineurs qui ne sont pas suivis par un juge des enfants ? Voilà. Donc on continue à créer des liens également, on l'a dit, avec l'éducation nationale pour être mieux alimentés en signalement. En tout cas, les pistes de réflexion sont très nombreuses. Je vous propose de m'en arrêter là. On peut, si vous le souhaitez, faire un petit focus, parce que j'en ai pas du tout parlé, sur les qualifications juridiques. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai pas parlé de l'UAPED, mais c'est aussi évidemment une piste de travail que nous développons en lien avec le docteur Gorgiard, puisque c'est un dispositif au départ qui a été voulu et pensé pour les mineurs victimes de violences graves, mais l'objectif est d'y inclure, évidemment, pour qu'on ait un parcours de soins totalement coordonné, les mineurs victimes de prostitution. On a parlé tout à l'heure de la santé de mineurs qui ne sont pas en demande de protection. Et évidemment, et c'est un constat qu'on a fait également pour les mineurs non accompagnés. Et donc c'est peut-être le point commun qu'en effet, face à un mineur qui n'est pas en demande de protection, la santé est très souvent, bien souvent, un lien, en tout cas un angle d'attaque qui est très intéressant et qu'on arrive ensuite à dérouler et à enrichir avec l'intervention d'autres professionnels pour justement accompagner le mineur. On n'a pas parlé non plus du temps du mineur victime, du temps de l'enquête. Et là aussi, c'est tout notre travail au parquet des mineurs d'essayer de faire concilier le moment où le mineur veut parler et les délais d'enquête, le temps du travail de police. Voilà, parfois ça correspond, parfois ça ne correspond pas. Mais en tout cas, on l'a dit, grâce à l'investissement de la brigade de protection des mineurs, on a réussi ces derniers mois à construire et faire aboutir de très beaux dossiers.
Alors, ce que je vous propose, on a 10 petites minutes, si vous le souhaitez, pour justement pouvoir échanger. Donc, s'il y a des questions, des remarques dans la salle. Là-bas, merci.
Bonjour, je m'appelle Karine Boulier, je suis responsable dans un service d'accueil d'urgence, dans le service d'accueil d'urgence à Rouen, responsable d'une unité pour adolescentes. Donc on accueille 12 ados âgés de 14 à 18 ans. Je vous remercie aussi, puisque la prostitution, en tout cas en Seine-Maritime, a éclaté explosé en été 2019. On s'est senti extrêmement seul dans les foyers. Alors tous mes collègues aussi, en tout cas de Seine-Maritime. Et à ce moment-là, en fait, en tout cas, le département a eu la bonne idée de proposer, en tout cas, un groupe de travail avec l'ensemble des partenaires pour essayer, en effet, de trouver des solutions et de mobiliser, en tout cas, un partenariat. Je voulais aussi, en tout cas, donc, j'entends ce que vous dites par rapport à la protection de l'enfance, aussi par rapport au signalement. Vous parlez aussi du temps. Lorsqu'on accueille des enfants, des ados en accueil d'urgence, en moyenne, les enfants, les ados restent chez nous entre 2 à 3 mois maximum. Donc c'est vrai que pour les évaluations, pour la prévention et pour créer aussi du lien, ça va très vite. Et il faut aussi des personnels qui soient extrêmement formés à l'évaluation et au repérage. Ce qui n'est pas le cas du tout dans les écoles d'éduc, à moins que ça ait changé aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, en fait, en tout cas, qu'il y ait des thèmes, en tout cas, particulièrement, en fait, par rapport à cette problématique. Donc, on tente, en effet, de former le personnel au repérage. Mais c'est surtout, en fait, ce qui est compliqué pour les équipes éducatives, c'est... La posture, c'est aller vers le jeune et c'est surtout aussi, comment vous dire, on a eu à un moment donné aussi beaucoup de jugements de la part des éducs. C'est compliqué aussi pour eux, en fait, la sexualité des adolescents. En plus, une adolescente qui se prostitue, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Pour autant, il y a du travail, il y a beaucoup de mobilisation. Il y a des formations aussi qui sont proposées, en tout cas maintenant en interne, en fait, à notre institution. Il y a aussi, en fait, du coup, un nouveau dispositif. Il y a eu un appel à projet qui s'est créé à l'IDEFI, où, en fait, c'est une structure qui a été créée qui accueille 10 adolescentes qui sont en rupture de toute prise en charge, en fait, de la protection de l'enfance et pour lesquelles, en fait, des éducateurs, en fait, vont vers elles et tente de les amener à accepter, en fait, en tout cas, un lieu de répit, de repos. Voilà, donc c'est tout nouveau, hein. Ça a ouvert, en fait, en février de cette année. Les 10 places sont déjà bien prises et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous remercie.
Merci pour votre intervention, vous voudrez peut-être compléter. J'avais donc une question. Est-ce que c'est une structure qui... vous travaillez avec les mineurs de votre département et des départements limitrophes, ou comme la problématique de l'éloignement est souvent très importante pour ces mineurs, est-ce que vous accueillez également des mineurs de départements plus éloignés ?
Alors oui, on accueille des départements, en fait, de l'Île-de-France, de partout. C'est-à-dire qu'en fait, toute situation de mineurs qui sont en situation de fugue, la police, en fait, nous les ramène, en fait, la nuit. Donc on est vraiment sur des accueils extrêmement courts, puisque l'idée, en fait, c'est de rapatrier l'ado dans son département d'origine. Après, on a rarement des situations d'ados qui arrivent chez nous parce qu'un éloignement géographique, en tout cas, a été demandé. On va dire que l'éloignement géographique, il est travaillé, on va dire, d'un service d'accueil d'urgence. Les équipes, en fait, elles ont 3 mois pour mener des évaluations, c'est-à-dire quel est le lieu le plus favorable, en tout cas, à l'épanouissement de l'enfant. Donc, soit en famille d'accueil, soit en foyer, soit en lieu de vie, ou voilà. Donc, c'est très rare, en fait, qu'on fasse des accueils préparés en accueil d'urgence de situations qui nécessitent, en fait, en tout cas, un éloignement. Voilà. Mais on accueille, oui, pas mal de situations, enfin, en tout cas, de Paris, du Nord, Belgique aussi, on a accueilli aussi pas mal.
Il me semble peut-être que vous avez aussi peu de demandes d'éloignement, enfin en tout cas de personnes qui viennent d'autres départements, de jeunes aussi, parce qu'il y a une méconnaissance peut-être de sa structure. Et malheureusement, pour l'avoir vu là cette année, il y a beaucoup de professionnels sur beaucoup de départements qui sont en demande de connaissance de ces lieux, de ces places de mise à l'abri sur d'autres territoires. Et là, je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à avoir tous ensemble pour connaître ces places de mise à l'abri sur un autre département, et c'est peut-être un prochain travail à mener tous ensemble, il me semble.
Une dernière question ?
Oui, bonjour. Grégory Dubois, je suis le responsable de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance du Nord. J'avais une question par rapport à votre intervention, monsieur, sur les CRIP. Je me demandais s'il n'y aurait pas pertinence à ce que l'ensemble des CRIP départementales est une catégorie motif d'IP sur la protection des mineurs, histoire de pouvoir faire remonter ces informations déjà à un niveau départemental et même après à l'ONPE pour objectiver ces augmentations dont on parle, mais en fait qu'on n'arrive pas vraiment à étayer depuis quelques années. Tout le monde s'accorde à dire que le chiffre est en augmentation, mais on n'a pas forcément tant d'éléments tangibles que ça.
Oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous, sauf que dans cette difficulté particulière, on est lié à un décret là, qui précise la qualité des informations qu'on doit faire remonter via le dispositif Olympe. Donc, je peux tout à fait informatiquement créer une nouvelle catégorie, hein, sauf que voilà, juridiquement, je ne sais pas. Voilà. Il faudrait qu'on ne soit pas les seuls à le faire. Mais effectivement, notre système de cotation, il est calqué sur les différents indicateurs qui apparaissent dans, vous voyez, le dispositif Olympe. Là, il y a un décret qui est assez complexe. Mais voilà, donc on l'a reproduit. Alors, on a créé, pour autant, on pourrait le faire parce qu'on a créé la catégorie mineure non accompagnée, mais pour des besoins, voilà, de statistiques et puis vraiment de distinguer les deux publics. Mais effectivement, hein, ça serait. Mais on s'était posé la même question pour les problèmes de radicalisation. On s'était plus sensible, hein, cette question-là. Effectivement, il y avait une demande. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un indicateur risque de radicalisation? On ne l'a pas fait. Bon, pour celui-là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais effectivement,
on l'a créé, on verra s'il est rempli et combien de situations on a chaque année. Alors, on ne va pas forcément faire remonter ça à Olympe, effectivement, parce que ce n'est pas ce qui est demandé. Mais en effet, quand vous dites les mineurs, les violences qu'ils se font sur eux-mêmes, en fait, ça regroupe tellement de choses. On peut déjà le coter pour un maximum de situations. Ça ne permet pas vraiment de visibiliser le phénomène, quoi. On n'y arrivera pas, je pense, avec ça.
On est bien d'accord. Mais...
En tout cas, ça fait partie des préconisations, je crois, tant du groupe de travail de Mme Champrenault que les nôtres, de pouvoir effectivement avoir cette case à cocher. Je suis désolée, Monsieur Luciani, je vais être très frustrante, mais je vois l'heure et juste qu'on puisse... Ouais. Si possible. Merci beaucoup, Madame Vip, Monsieur Fauquet. Et je vous propose donc qu'on puisse passer à la dernière table ronde. Monsieur Cornu, Monsieur Castells, si vous pouvez venir nous rejoindre, on va donc passer à la question de l'accompagnement. Merci beaucoup.